Secret terrain.
Bonjour et bienvenue sur Secret de terrain. À travers ce podcast, des chercheurs, des chercheuses nous emmènent sur leur terrain et partagent avec nous leurs expériences et leurs rencontres. Secret de terrain est une coproduction entre Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines, et le média de Conversation France. En 2016, environ 9000 enfants vivaient dans les rues au Burkina Faso, en particulier dans les deux grandes villes du pays, à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ces enfants, livrés à eux-mêmes et débrouillards, portent un nom, les Bako-Romanes. Comme l'explique l'anthropologue Muriel Champy, les Bako-Romanes s'insèrent dans différentes niches de l'économie urbaine et assurent leur survie au quotidien par le vol, la mendicité et les petits boulots. En grandissant, quelques-uns viennent à leur tour en aide à d'autres enfants. C'est le cas de Seydou. Ce jeune homme a marqué la vie et les recherches de Muriel Champy.
Je suis arrivée au Burkina en janvier 2012. C'était mon premier terrain de thèse. Et donc je voulais travailler sur les jeunes qui vivent dans la rue à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Et donc c'est là-bas que j'ai rencontré Seydou Zidouemba, avec qui ensuite j'ai mené mes recherches, mais je l'ai salarié pour travailler à mes côtés. Très vite, j'ai vu que le travail avec lui était extrêmement agréable. Je trouvais qu'il avait vraiment cette capacité à mettre les gens à l'aise, à aller partout, et surtout un vrai sens du travail bien fait et un enthousiasme. Et j'ai relu mon carnet de terrain de l'époque, parce que donc, les anthropologues, on écrit tous les jours ce qu'on a fait de notre journée, et nos impressions. Et donc j'avais écrit que son enthousiasme me donne des ailes et qu'il gagne vraiment mon cœur. Et pour moi, ma rencontre avec Seydou, c'est dans le travail en fait. Par ailleurs, parallèlement, on avait commencé à faire une série d'entretiens, parce que Seydou est très bavard, ça, c'est une autre caractéristique. Et donc en faisant ces entretiens à deux, évidemment, on a commencé aussi à mieux se connaître.
Par exemple, moi, je t'ai dit, je n'ai pas connu l'amour de la famille.
Oui, mais malgré ça, il y en a d'autres. Peut-être qu'ils n'ont pas tellement connu l'amour de leur famille. Mais...
peut-être qu'il y a sa maman qui est toujours dans la famille, qui sollicite son soutien. Ou le papa. Mais nous, non.
Seydou, en fait, ses parents se sont séparés quand il avait 6 ans, à peu près. Enfin, ils se sont séparés. Les familles, en fait, étaient en désaccord avec cette union parce que sa mère avait été donnée à un autre homme. Donc, ses parents avaient fui ensemble en Côte d'Ivoire pour vivre leur union, ont eu 3 fils là-bas et sont rentrés au Burkina en espérant que les familles céderaient au fait accompli. Mais ce n'a pas été le cas. Et donc, à ce moment-là, les parents se séparent. Le père repart en Côte d'Ivoire, la mère également, mais séparément. Et à ce moment-là, les 4 fils, entre-temps, sont envoyés chez la mère, qui chez une grand-mère, etc. Et Seydou est envoyé à l'école coranique. Et donc, il a passé 7 ans dans différentes écoles coraniques, parce que là aussi, il a été ballotté d'une école coranique à une autre, sans recevoir à peu près aucune visite de sa famille. Donc avec un sentiment d'abandon très fort. Et finalement, vers l'âge de 13-14 ans, il a fui définitivement l'école coranique, parce qu'il avait fui plusieurs fois, il y était retourné, on l'avait mis dans une autre, etc. Et donc vers l'âge de 14 ans, il a rejoint définitivement la rue, qu'il avait déjà commencé à fréquenter en fait en tant qu'élève coranique. Parce que les maîtres coraniques, habituellement, ils ne sont pas rémunérés en fait pour l'éducation qu'ils prodiguent. L'idée étant que l'éducation coranique soit accessible à tous, indépendamment du revenu. Sauf que du coup, les maîtres coraniques peuvent avoir des dizaines d'élèves et donc, pour subvenir à leurs besoins, les envoient mendier de la nourriture, un peu d'argent, pour Et donc Seydou était habitué comme ça à sillonner la ville et parfois il partait plusieurs jours. Notamment, il y avait une pause dans la semaine pendant 2-3 jours où il n'y avait pas d'école. Et donc il partait parfois 2-3 jours pour mendier et donc il dormait à la Belle Étoile, etc. Donc en fait, Seydou me racontait qu'il ne se souvient pas de sa première nuit dans la rue. Il n'y a pas de première nuit parce que ça a été très progressif en fait. Et finalement, quand il a rejoint la rue, il a rejoint la ville de Puitenga, qui est un immense marché. Enfin, c'est une ville connue qui était à l'intersection de plusieurs routes commerciales. Et donc là, à Puitenga, il vit de mendicité parce que c'est ce qu'il a appris à faire aussi. Et puis de petits boulots. Il a été engagé par une Togolaise, par exemple, je me souviens, qui vendait de la nourriture dans la rue. Il lavait les assiettes pour elle. Parfois, ça peut être de pousser la charrette pendant une journée, donc avec des denrées pour le marché. Donc là, ils vont gagner 1500 francs, 2 euros. Pour la journée, voilà, donc c'est des petits expédients comme ça. Peut-être un voisin qui veut balayer devant chez lui et qui a la paresse de le faire et donc qui va donner quelques pièces. Donc il vit comme ça avec d'autres jeunes qui sont aussi pas des bacoromanes justement, pas vraiment. C'est-à-dire c'est des jeunes qui vivent dehors, enfin qui vivent dans la rue, qui n'ont pas vraiment de personnes qui les surveillent. Mais pas avec un sentiment, disons, de marginalité. C'est-à-dire qu'à Puitenga, des enfants qui poussent des charrettes, il y en a des centaines. Il y en a qui vivent en famille, il y en a qui vont à l'école et qui le soir poussent des charrettes, etc. Donc il n'est pas dans un monde, comme il a été plus tard à Ouagadougou, dans un monde d'enfants de la rue, qui sont dans une forme de désaffiliation sociale. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a vraiment un continuum et que parfois, on va mettre des frontières. Et donc, par exemple, les institutions caritatives contribuent à définir ce que c'est que le Bakoro en accueillant certains types de publics et pas d'autres. À Ouagadougou comme à Puitenga, il y a des enfants qui travaillent toute la journée en vendant, je sais pas, des chaussures et qui ou des mouchoirs, des paquets de mouchoirs, et qui éventuellement vont même dormir sur un étal de marché, continuer à travailler le lendemain, mais ils vont pas dans les centres pour enfants de la rue, ceux-là. Donc finalement, se cristallise quand même un mode de vie lié à l'appartenance à un réseau d'autres personnes qui s'identifient comme bakoromane. Déjà, bakoromane, c'est un terme d'initié. Si on n'est pas bakoromane, on ne connaît pas le terme. Donc c'est déjà une façon... J'ai souvent entendu, quand on voit un nouveau, on peut le tester comme ça. T'es un bakoromane ? S'il ne connaît pas, on sait déjà que c'est un mente, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît rien.
Je m'en vais libérer les petits voleurs de la maca et les faire remplacer.
Les grands qui sont dehors.
Le bakoro est vraiment lié en fait au vol, enfin à une certaine forme de marginalité et de délinquance, au sens que, en gros, les bakoromanes vivent quand même souvent du vol et ou de la mendicité pour les plus jeunes, et consomment des stupéfiants de différents types. Pour les plus jeunes, généralement la colle, qui est vraiment quasiment un marqueur définition de ce que c'est qu'un bakoromane. C'est soit de consommer de la colle, soit d'en avoir consommé, parce que souvent, en vieillissant, il se détourne de cette drogue qui est jugée puérile. Et également des anxiolytiques du type Valium, différents médicaments qui sont détournés donc pour leurs effets psychotropes, le tramadol, De l'alcool, évidemment, aussi. Et pour les plus âgés, du cannabis d'abord, et parfois mêlé à une héroïne en poudre qui se fume, du coup, dans un joint. Voilà. Pour beaucoup de bacoromanes, en fait, ça a commencé comme une sorte de fugue juvénile, mais qui est assez... assez normal d'une certaine façon. C'est vraiment une forme reconnue de l'émancipation juvénile masculine, attestée depuis des siècles même. Enfin, que vers à l'adolescence, les garçons souvent partent en aventure, comme on dit aujourd'hui en français, pendant quelques années. Voilà. Pour découvrir, apprendre peut-être des nouvelles techniques, des compétences de travail ou gagner un peu d'argent avant de revenir et s'installer, fonder un foyer, etc. Et donc l'adolescence est une période où cette forme d'autonomisation est acceptée, voire implicitement encouragée par les parents.
Avant, si tu gagnes un enfant qui est arrivé à mon âge, qui n'est jamais allé en Côte d'Ivoire, qui n'est jamais allé au Ghana, qui n'est jamais allé nulle part ailleurs pour chercher de l'argent, c'est que ce n'est pas un homme. Parce qu'il ne peut jamais donner une bonne conseil à ses petits frères.
Pourquoi?
Selon nous, le bon conseil que toi tu peux donner, c'est quand tu vas vivre, que tu vas voir et savoir comment il faut prendre ta vie en main.
Tant qu'on reste à la maison à manger le taux que maman a préparé et à porter les habits que papa a achetés, on restera toujours un enfant. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, les bacoromanes, souvent, se présentent comme des aventuriers. En fait, quand je faisais mes entretiens avec eux, souvent, ils se présentaient comme des jeunes voilà, qui sont partis... partis faire leur jeunesse en ville, explorer un peu, mais que bientôt ils vont rentrer. Ce qui est présenté comme une forme normale d'individuation masculine, finalement, quand elle se prolonge, devient une forme de marginalité. Et toute la difficulté, c'est justement de ne pas franchir un certain seuil voilà de désaffiliation, donc notamment ça implique de rester un peu en contact avec la famille de temps en temps. On peut être tout à fait bacoromane et rendre visite à sa famille au moins une ou deux fois par an, ramener un peu d'argent, repartir dans la rue, etc. Il y a beaucoup de bacoromanes qui sont dans cette configuration là mais quand cette forme d'errance qui est tolérée à l'adolescence se prolonge jusqu'à l'âge adulte, à un moment ça devient mal vu par les familles, et ça devient de plus en plus difficile, en fait, de s'extraire de ce monde qui, c'est un fait, ne permet pas vraiment de construire une vie d'homme respectable. Je dis homme parce que les bacoromanes avec qui j'ai travaillé sont exclusivement des hommes. Il n'y avait pas de filles qui avaient un mode de vie comparable aux bacoromanes. Mon hypothèse, c'était justement que c'est lié au fait que cette forme d'autonomie qu'ont les bacoromanes, elle est tolérée pour les garçons, mais pas pour les filles. Les bacoromanes, donc les plus jeunes, nombre d'entre eux, vivent vraiment de mendicité. Ce qui n'empêche pas que, quand l'occasion se présente, encore une fois, il y a un continuum. Hein. Souvent, en grandissant et au contact de leurs camarades, il y a des formes de transmission et d'apprentissage. Les bacoromanes apprennent différentes techniques de vol. Et donc, comme le terme bacoromane qui appartient au langage, à l'argot de la rue, il y a tout un vocabulaire pour désigner les différentes techniques de vol. Donc, souvent, pour commencer, c'est le balayage. Le balayage, c'est justement ramasser des objets mal déposés ou mal surveillés. Ensuite, il y a le gara, qui est un vol de nuit. Donc là, ça consiste à escalader le mur d'une maison et de voler, souvent plutôt dans la cour. Donc le linge qui est resté séché dehors, des bassines, des poulets, voire même des moutons. Et toute chose qui traîne dans la cour. Ce qui est problématique avec le Gara, c'est que s'ils se font prendre, ils sont pris sur le vif, il n'y a pas d'excuse possible. Quand la nuit, on a escaladé le mur, on ne peut pas inventer d'histoire et d'excuses pour justifier sa présence là. Donc ça, c'est souvent les vols des débuts. Et ensuite, il y a le deux doigts qu'on connaît, en fait, c'est les pickpockets. C'est l'idée de prendre avec deux doigts dans la poche de quelqu'un. Donc ça demande déjà un peu plus d'expérience et surtout de confiance en soi. Ça implique d'évoluer dans la foule, de savoir devenir invisible, de savoir repérer les proies, les bons moments, etc. Et souvent, je simplifie, mais passé un certain âge, souvent ils sont davantage marqués par la rue aussi. Donc ils peuvent avoir des cicatrices, des dégaines liées à la consommation de drogue, etc. Où ça devient plus difficile en fait de faire du deux doigts parce qu'on les repère. Et à ce moment-là, justement, certains vont revenir plutôt au Gara, mais c'est très dangereux parce que s'ils se font prendre, ils peuvent se faire tuer en fait. Enfin, c'est des lynchages en fait. Et l'autre option qui est le biri, et donc ça c'est l'agression à main armée, donc avec des couteaux, des machettes, en gros. Donc là, c'est agresser une personne la nuit et lui prendre ce qu'elle a de force.
Par exemple, les Gara, les vols de la nuit. Si tu sors de nuit et qu'on t'arrête, les gens peuvent te tuer facilement.
Ça, c'est vrai.
Mais il y a ce qu'on appelle des doigts.
Ouais.
Des doigts. Et même si on t'arrête, si la personne récupère ce qu'il y a, on te laisse. Même si on va te frapper, on ne peut pas te tuer. Il y a ce qu'on appelle balayage. C'est par exemple, tu déposes ça comme ça, tu fais un zèle seulement, quelqu'un part avec ça. Et il y a ce qu'on appelle biri. Biri, c'est la force attaque à main armée. Donc, on te coince dans un coin noir seulement. On prend ce qu'on veut et puis on s'en va. Il y a ce qu'on appelle coup de huit. Par exemple, le matin, les gens se lèvent et partent au boulot. Ceux qui sont restés à la maison, d'ici 8h, 9h seulement, tu sais que les gens sont dans le marché, les femmes sont dans le marché, les maisons sont vides. Tu rentres, tu te casses les maisons, tu ramasses ce que tu veux, tu pars.
Seydou, il a beaucoup changé, mais il a pratiqué tout ça. À peu près dans l'ordre aussi où je l'ai dit. Le Gara, pas trop. Il a évolué aussi, il a passé 9 ans dans la rue, Seydou. Et notamment dans ces dernières années, lui, il pratiquait plutôt le deux doigts, mais en général, il allait en province. C'est-à-dire qu'il prenait un car pour une ville, il faisait ses affaires et il revenait à Ouaga. Ce qui lui permettait, du coup, de n'être pas identifié de la même façon. Et donc, d'avoir à ce moment-là, il avait loué une petite maisonnette à Ouaga. Donc, quelque part, c'était plus un enfant de la rue. Et en même temps, il était bakoroman, au sens où son mode de vie, ses fréquentations étaient celles du bakoro. Mais il avait une maison où il dormait très peu. Mais dans son quartier, du coup, il n'avait pas une réputation de voleur. Et au fur et à mesure, en fait, il y a eu plusieurs choses. En fait, en 2001, il y a eu une bagarre, en gros, avec quelqu'un. Et il a été jugé pour homicide en cas de légitime défense. C'est ainsi que ça a été jugé. Et donc, il a écopé de 7 mois de prison. Et donc ça, c'est une expérience qui l'a marqué, enfin qui a marqué un tournant en termes de projet, d'envie de passer à autre chose aussi. Et d'ailleurs, c'est en prison qu'il a appris à lire. Parce qu'il n'est jamais allé à l'école, mais il a profité de ce temps-là pour apprendre à lire et à écrire. Et ensuite, il a constaté que nombre de ses camarades étaient morts, notamment dans des lynchages, mais aussi dans des opérations policières qui, apparemment, autour de 2001, ont été assez violentes. Enfin, il y a eu vraiment une politique d'élimination des voleurs. Et donc, C'est aussi en grandissant, enfin, ce qu'il a décrit comme la prise de conscience que nous sommes des êtres mortels et qu'il avait envie de construire des choses, de construire une famille et aussi d'avoir une respectabilité.
Il paraît que tu t'appelles Koro. Il paraît que tu t'appelles Koro. Et tu pèches.
Moi, quand j'ai rencontré Seydou, il avait quitté la rue depuis déjà 8 ans. Il n'était plus Bakoroman depuis 8 ans. Seydou, en fait, saisit l'occasion qui lui avait été proposée par MSF Luxembourg pour devenir père éducateur. Il a dit, même si mon salaire était ridicule par rapport à ce que je pouvais gagner dans la rue, j'ai fait ce choix-là d'une forme de respectabilité. Les pères éducateurs, donc, c'est des anciens jeunes de la rue qui travaillent pour une association et qui font le lien avec d'actuels jeunes de la rue. L'idée étant que c'est à la fois une proposition de réinsertion pour les jeunes de la rue, mais aussi une façon peut-être de faciliter le contact avec un public difficile. Par ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré son épouse. Seydou, au moment où je l'ai rencontré, il vivait dans une petite maison de 2 pièces, à peu près 9 mètres carrés, je pense, donc avec son épouse et ses 2 enfants. Il avait 2 enfants, un garçon et une fille. Et donc, ils avaient une petite cour, et donc une maison en briques de terre cuite. Enfin, c'est de la terre mélangée à de l'eau et un toit en tôle. Et en fait, dans un quartier non loti d'Ouagadougou, donc un quartier où il n'y a pas l'eau et l'électricité. Donc, ils se faisaient livrer l'eau avec des barriques tous les 2 jours. On paye 200 francs et on a de l'eau. Et l'électricité, il n'y en avait pas. Donc, c'était des petites lampes chinoises. Seydou est un grand amateur de films. Or, dans les quartiers non lotis, on peut pas regarder de films vu qu'il n'y a pas l'électricité. Et quand il était dans la rue, il allait tout le temps au vidéoclub. Alors, les vidéoclubs, c'était à l'époque, c'est une télé, avec des bancs devant, un espace un peu fermé avec des bâches en général, voilà. Et on paye 50 francs, enfin, pas grand chose, ou 25 francs. Pour voir le film. Donc c'est une sorte de cinéma, mais sur une télé, quoi. Et donc Seydou passait tout son temps au vidéoclub. Quand j'étais à Ouaga, il n'y avait plus trop de cinéma. Mais lui, à l'époque, il allait beaucoup dans des vrais cinémas, etc. Donc il regardait souvent 3 films par jour. Beaucoup de Bollywood à l'époque, parce que quand il était dans la rue, c'est ça qui était à la mode. Et surtout, il était fan de films d'action. Alors là, c'est notamment les films de Bruce Lee, etc. Ça, c'était, ou Jackie Chan. Ça, c'était les grands films, quoi.
Ah, Chun Gao Si.
Seydou, donc, quand on travaillait ensemble, ça faisait 17 ans qu'il n'avait pas vu son père, ni ses frères. Et sa mère, sa mère également, mais sa mère était décédée quelques années après la séparation des parents. Et donc, c'est quelque chose qui le hantait beaucoup. Seydou se posait énormément de questions sur sa vie, sur le pourquoi de cette famille si dysfonctionnelle. Il me disait très souvent, Muriel, je sais pas qui je suis, au sens où je ne connais pas mes parents. Et si je ne connais pas mes parents, je ne peux pas savoir qui je suis.
Mais comment tu te cherches?
Ah, voilà, une belle question. Je me cherche, rien ne m'intéresse. Je me cherche, tout ce que je fais, c'est pour pouvoir survivre, sinon rien ne m'intéresse. Je ne sais pas ce que je peux faire de bien. Tu te cherches. Tu n'as même plus la confiance de toi. Toute chose que tu vas vouloir faire, tu ne sais pas si ce que tu vas faire, c'est du bien ou c'est du mal. tu ne sais pas le résultat, comment ça va donner. À ce moment, tu peux vouloir même faire une bonne chose, mais tu n'arrives pas. Parce que tu ne penses pas que ça sera une bonne chose. Ah, Arma Havi, ma lèvre à bord, mais de ma mère à mène.
Et donc, c'est quelque chose qui le hantait, et je pense que le travail avec moi a accéléré cette réflexion à au moins deux titres. D'une part, on faisait un travail vraiment approfondi d'entretien sur sa vie. Donc, évidemment, forcément, ça ressasse ou ça fait réémerger des histoires un peu enfouies. Il était très désireux de ça aussi, hein, de faire ce travail. Donc, tout ce travail à mes côtés, mais qui menait depuis des années aussi, hein, en tant que père éducateur, a rendu impérieux le besoin de revoir son père.
Grâce à lui, moi, je suis devenu un esclave de tout le monde. Moi, je n'étais pas seul dans ma famille. J'étais pas un grand frère aussi. Il y avait un autre grand frère que moi. Et je ne l'ai pas demandé à aller à l'école coranique. Ce que moi, j'aimerais le voir, c'est pour lui demander tout ça. Si réellement, nous ne sommes pas tes enfants, si réellement, on n'a pas d'importance à ses yeux, si réellement, notre maman n'a pas servi grande chose avec lui, il n'a qu'à nous dire, on sait comment on va se chercher.
Au Burkina aussi, enfin, je pense dans toute société, mais c'est plus conscient au Burkina, on ne se fait pas seul. On est quelqu'un parce que on appartient à une lignée paternelle et maternelle, et il n'y a pas l'idée de se construire seul. Enfin, finalement, c'est pas possible. Moi, c'est Idou ce qu'il recherche dans la vie, et c'est ce que j'ai vu chez beaucoup de jeunes de la rue. Ce qu'il recherche, in fine, c'est les bénédictions de leurs parents ou les bénédictions des aînés de leur lignage, et que sans ces bénédictions, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas réussir. Même si on gagne de l'argent, on ne pourra pas le faire fructifier. Enfin, il y a vraiment cette idée qu'il est impératif de prendre sa place dans une lignée. Donc d'être né de parents et soi-même d'être parent d'enfants qui perpétueront le lignage. Donc c'est un besoin que tous les jeunes de la rue ont. Au fil du temps, est apparue l'idée qu'il pourrait aller en Côte d'Ivoire à la rencontre de son père, qui était installé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière du Libéria, où il travaillait dans des plantations de cacao. Et donc j'ai proposé à Seydou de lui payer le voyage pour aller à la rencontre de son père. Et à ce moment-là, Seydou, qui avait vraiment le désir de comprendre cette histoire qui s'est arrêtée quand il avait 7 ans. Enfin, depuis, il n'avait plus d'interlocuteur ou d'explication sur ce qui s'était passé. Et il a souhaité faire de ces retrouvailles aussi l'occasion d'une réunion familiale plus large. Et donc, il a convoqué également ses frères. Et donc, il a convoqué tout le monde à se réunir auprès de leur père et de mettre les choses à plat. Ce qui est, en revanche, là, très atypique. On est très différents, évidemment. On n'a pas du tout eu la même vie, à tout niveau. Mais c'était vraiment un ami. On pouvait se raconter beaucoup de choses. Et c'était quelqu'un d'extrêmement curieux. Donc, et ensuite, ce que j'ai trouvé très fort avec le fait qu'il soit allé en Côte d'Ivoire, qu'il rencontre, les entretiens, enfin les discussions qu'il a eues avec sa famille, il les a faites sans moi. Donc pour moi, c'est aussi une forme d'aboutissement de mon travail de recherche qui finalement s'est autonomisé d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'ai initié peut-être le projet, mais finalement, à ce moment-là, c'est lui qui a mené son propre travail. Et j'ai trouvé ça enrichissant et finalement une forme d'anthropologie qui me plaît bien. À un moment, je m'étais même dit il faudrait qu'on signe l'ouvrage Seydou et Muriel.
Depuis la fin de leurs travaux de recherche sur les jeunes de la rue, les Bakoromanes, Seydou tente de maintenir le lien avec son père, malgré des conditions de vie difficiles et leurs relations compliquées. Toujours en contact avec Muriel, il lui donne régulièrement de ses nouvelles. Muriel Champy a récemment publié DJ Arafat, Bandit ou Prophète, dans Carnet de terrain, blog de la rue du terrain et sur le site de Conversation France. Sa thèse sur les Bakoromanes paraîtra dans les mois à venir.
Secret, terrain, terrain, secret, secret, terrain.
Vous avez écouté Secret de terrain, une coproduction entre Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines, et le média The Conversation France.